Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du jeudi 21 décembre 2023. Le Conseil de sécurité de l'ONU tente à nouveau ce jeudi de parler d'une seule voix lors d'un nouveau vote sur une résolution destinée à accroître l'aide à la bande de Gaza. En RDC, les élections se sont poursuivies aujourd'hui après des perturbations. Hier, première tendance demain vendredi, selon un responsable de la commission électorale. Le président béninois Patrice Talon veut rétablir des relations avec le Niger. Les Béninois poussent un ouf de soulagement.
C'est un appel que le chef d'État du Bénin a lancé. J'espère qu'il ira un peu plus loin et demandera de normaliser les relations diplomatiques, économiques, culturelles, commerciales avec le Niger.
Un reportage à suivre dans la partie magazine. En Guinée, manifestation à Conakry pour réclamer de l'essence dans les stations-service alors que le pays entame 3 jours de deuil en hommage aux victimes de l'incendie d'un dépôt de carburant à Conakry. Ne manquez pas notre page fort ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Un homme armé a tué 15 personnes et en a blessé 24 autres ce jeudi dans une université du centre de Prague, avant d'être lui-même tué par les forces de l'ordre, ont annoncé les secours et la police dans ce qui constitue la fusillade de ce type la plus meurtrière en République tchèque. Les services d'urgence ont fait état de 9 blessés graves et d'au moins une quinzaine de blessés plus légers. L'acte de violence qui s'est déroulé en plein centre historique de la capitale tchèque a provoqué une intervention massive de la police lourdement armée, des évacuations et des avertissements invitant la population à rester à l'intérieur. Israël a poursuivi aujourd'hui sa campagne aérienne et terrestre contre les militants du Hamas à Gaza. Le bilan des victimes s'alourdit. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'arrive toujours pas à parler d'une même voix. Le point avec Rosine Monizero.
Le Hamas a déclaré hier qu'au moins 20 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré jeudi qu'il n'y a plus d'hôpitaux fonctionnels dans le nord de la bande de Gaza, décrivant des scènes insoutenables de patients abandonnés, mendiant de la nourriture et de l'eau. Les Émirats arabes unis ont parrainé une proposition de résolution pour obtenir un compromis aux Nations unies. Le Conseil de sécurité doit tenter une nouvelle fois jeudi d'adopter une résolution appelant à l'arrêt des combats après avoir échoué dans ses tentatives précédentes. Les États-Unis ont opposé leur veto malgré la pression du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelant à un cessez-le-feu humanitaire. Israël se dit ouvert à l'idée d'une trêve, mais exclut tout cessez-le-feu avant l'élimination du Hamas.
Et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme réclame à Israël l'ouverture d'une enquête sur la possible commission d'un crime de guerre par ses forces à Gaza, une demande partisane selon Israël. Dans un communiqué daté de mercredi, cette agence de l'ONU dit avoir reçu des informations inquiétantes concernant la mort de 11 Palestiniens non armés dans la ville de Gaza. Ils sont décédés mardi soir lors d'une intervention de Sahel dans un immeuble résidentiel qui abritait plusieurs familles. Le chef de l'état-major interarmé américain s'est entretenu avec son homologue chinois ce jeudi le matin, a indiqué son bureau, alors que les États-Unis et la Chine ont repris leur communication militaire. C'était la première fois qu'ils s'entretenaient depuis que le général Brown a pris ses fonctions après avoir été confirmé par le Sénat au poste le plus haut gradé de l'armée américaine. En septembre, le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping se sont mis d'accord le mois dernier lors d'un sommet californien très suivi pour reprendre ses contacts. Ici aux États-Unis, l'ancien avocat de Donald Trump et ex-maire de New York, Rudy Giuliani, s'est déclaré aujourd'hui en faillite personnelle devant un tribunal de la ville après avoir été condamné la semaine dernière à payer 148 millions de dollars à deux assesseurs électoraux de Géorgie qu'il avait diffamés. M. Giuliani, fer de lance de la campagne de l'ex-président républicain pour l'invalidation des résultats du scrutin de 2020, a déposé une demande devant le tribunal fédéral de Manhattan sous le fameux chapitre 11 de la loi sur les faillites en déclarant 500 millions de dollars de dettes et 10 millions de dollars de patrimoine selon des documents judiciaires.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, le vote s'est poursuivi ce jeudi en République démocratique du Congo. Hier, certains bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir en raison de problèmes de logistique dans l'ensemble du pays. John Lyndon.
Cette prolongation est inconstitutionnelle, ont souligné certains leaders de l'opposition qui exigent la réorganisation des élections. À Kinshasa, certains bureaux ont pu ouvrir et les Congolais ont continué de voter. Dans d'autres bureaux, l'heure est au dépouillement des votes. Dans un entretien accordé à une radio locale à Kinshasa, Didi Manara Linga, deuxième vice-président de la CENI, a justifié la prolongation du scrutin, relevant les problèmes logistiques indépendants, selon lui, à la planification de la CENI. Il a en outre tenu à relever que le droit de vote de chaque Congolais est supérieur à toute considération logistique. Selon lui, la publication des premières tendances sur l'élection présidentielle devrait commencer demain vendredi. Les résultats de ces élections générales devraient être publiés le 31 décembre. John Linden, envoyé spécial de VO Afrique à Kinshasa.
Le président béninois Patrice Talon veut rétablir rapidement des relations avec les pays qui ont été le théâtre de putsch, comme le Niger voisin. Il a déclaré ce jeudi dans son discours à la nation devant l'Assemblée nationale. Nani Talani.
Le chef de l'État béninois a affirmé sa volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus. Patrice Talon a ajouté ne pas avoir manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ses pays frères, notamment le Niger, où un coup d'État a renversé le président Mohamed Bazoum. Il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point et prendre acte. Prendre acte requiert que nos interlocuteurs jouent leur partition en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes auprès de la communauté internationale, a souligné M. Talon, ouvrant la voie à une reprise des relations avec le Niger, sanctionnée par la CEDEAO. Depuis l'instauration de ces sanctions, plusieurs camions sont bloqués à la frontière, ce qui affecte beaucoup le nord du Bénin. Ces sanctions ont aussi fait baisser les revenus portuaires de Cotonou. Le léoduc géant reliant le Niger à la côte béninoise, censé permettre à partir de janvier la commercialisation du brut nigérien sur le marché international, est aussi un sujet de préoccupation pour les deux pays. La CEDEAO conditionne l'allègement de ses sanctions à l'encontre du Niger à une transition courte avant un retour des civils au pouvoir.
Au Burkina Faso, 4 fonctionnaires français disposant de passeports et visas diplomatiques ont été arrêtés par les autorités à Ouagadougou, a déclaré mercredi Paris, qui a nié une information selon laquelle il s'agit d'agents des services du renseignement. D'après la France, les 4 fonctionnaires se sont rendus au Burkina Faso afin d'effectuer une maintenance informatique à l'ambassade de France, mais ils ont été arrêtés le 1er décembre, puis transférés le 14 décembre dans une prison de Ouagadougou. Paris appelle à leur retour immédiat en France. L'ambassadeur du Mali à Alger a été convoqué ce jeudi au ministère algérien des Affaires étrangères au lendemain de la convocation par Bamako de l'ambassadeur d'Algérie au Mali. Bamako reproche à Alger des réunions avec des rebelles Touareg sans associer les autorités maliennes. En réponse, le chef de la diplomatie algérienne a rappelé que le 13 décembre, l'Algérie avait appelé à travers un communiqué toutes les parties maliennes à renouveler leur engagement dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issue du processus d'Alger. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé ce mercredi 3 jours de deuil national en hommage aux victimes de l'incendie dans le dépôt d'hydrocarbures de Conakry. L'explosion qui s'est produite le 18 décembre a fait 18 morts. Le chef de l'État guinéen s'est adressé hier à ses compatriotes. Retour sur l'adresse à la nation de Mamadi Doumbouya avec notre correspondant Zakaria Kamara.
Une partie de la circulation routière a été perturbée ce jeudi par des jeunes qui manifestaient contre la fermeture des stations-service. Des mouvements spontanés enregistrés dans la capitale Amdallah et à Bambeto au lendemain de l'adresse à la nation du président de la transition. Mercredi à 20h30, Mamadi Doumbouya s'adresse aux Guinéens. Nous sommes tous affectés par la tragédie, déclare Mamadi Doumbouya, alors que le bilan est passé à 18 morts. Dans son discours, le colonel Doumbouya, visiblement ému, a présenté ses condoléances au peuple de Guinée et ses vœux de bon rétablissement aux blessés pris en charge par le gouvernement guinéen. Le chef de l'État a salué l'esprit civique des Guinéens. Il a ensuite rendu un hommage aux forces de défense et de sécurité, aux unités de secours, précise-t-il, pour leur bravoure.
Face à la solidarité internationale, Doumbouya a tenu à remercier pays amis et partenaires techniques et financiers pour leur soutien. Je décrète un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes à compter du jeudi 21 décembre 2023. Durant cette période, le drapeau national sera en berne sur l'ensemble du territoire et dans nos représentations diplomatiques, annoncé le président de la transition en Guinée, Zakaria Camara, pour VO Afrique, Conakry.
Et les combats qui font rage depuis avril au Soudan entre l'armée et les paramilitaires ont désormais déplacé 7,1 millions de personnes. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
L'Angola a décidé de se retirer de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole sur fond de désaccord sur les quotas de production pétrolière, estimant que son adhésion ne servait pas les intérêts de Luanda. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'influence sur les quotas, mais si nous devions rester dans l'OPEP, nous subirions les conséquences de la décision de respecter les quotas de production. L'Angola serait alors contraint de réduire sa production, a expliqué ce jeudi le ministre angolais des Ressources naturelles, Diamantino de Azevedo. Le prix garanti Chambord du cacao au Cameroun pour la campagne 2023-2024 a été fixé à 1500 francs CFA par kilogramme, mais les prix effectivement payés aux agriculteurs sont flexibles en fonction du marché. Pour terminer, le géant automobile Toyota traverse des turbulences après la révélation ce jeudi du vaste scandale de falsification et de nombreuses irrégularités découvertes dans des tests de sécurité des mini-véhicules dans sa filiale Daihatsu au Japon. Les enquêteurs imputent les fautes à des facteurs tels que la pression extrême due à un calendrier de développement très serré et rigide et le manque d'expertise des dirigeants. Toyota a par ailleurs annoncé un rappel d'un million de véhicules aux États-Unis à cause d'un problème d'airbag.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le Real Madrid et le FC Barcelone continueront à défendre le projet de Super League.
Tout à fait Jean-Roger. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont affirmé ce jeudi leur intention de continuer à défendre le projet de Super League dissidente de la Ligue des Champions après la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a jugé son interdiction contraire au droit. Le football européen des clubs ne sera plus un monopole, a déclaré le président du club madrilène, Florentino Pérez, en assurant que la justice européenne avait pleinement reconnu le droit de proposer et de promouvoir des compétitions européennes qui modernisent le football. Le FC Barcelone a estimé pour sa part, dans un communiqué, que cette décision ouvrait la voie à une nouvelle compétition de football plus haut niveau en Europe. L'enjeu économique est l'un des principaux arguments de ces deux clubs, dernier survivant des 12 équipes qui avaient lancé cette idée en avril 2021.
En revanche, le gouvernement britannique et la Première Ligue réitèrent leur opposition à la Super League.
Oui, le gouvernement britannique et la Première Ligue organisatrice du championnat d'Angleterre ont réitéré leur opposition à tout projet de Super League. L'organisatrice du riche et puissant championnat anglais réitère son engagement envers les principes clairs d'une compétition ouverte qui sous-entende le succès des compétitions nationales et internationales de clubs. Pour la Première Ligue, le football se nourrit de la compétitivité créée par la promotion et la relégation, de la qualification annuelle au mérite des ligues et coupes nationales pour les compétitions internationales de clubs et des rivalités et rituels de longue date qui accompagnent les week-ends dévolus au football national.
Athlétisme, avant de nous quitter, le Kenyan Eliud Kipchoge choisit le marathon de Tokyo pour préparer les Jeux Olympiques de Paris.
Double champion olympique du marathon, Eliud Kipchoge courra le marathon de Tokyo le 3 mars avant de tenter d'aller chercher un troisième titre aux Jeux de Paris en août, a-t-il annoncé ce jeudi. En choisissant une course tôt dans la saison, Tokyo est le premier marathon majeur de l'année. Ça me donne du temps pour me préparer mentalement et physiquement pour Paris, a affirmé Kipchoge. champion olympique à Rio en 2016, puis à Tokyo en 2021, Kipchoge deviendrait le premier athlète à réaliser un triplé olympique sur marathon s'il remporte l'or à Paris.
Page de sport VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, certains électeurs ont continué à voter ce jeudi dans des endroits où le scrutin n'a pas pu se tenir hier. Le dépouillement s'est poursuivi pour des bureaux de vote qui ont clôturé l'opération de vote et par endroits, des résultats ont même été affichés. Eddie Sango, l'un de nos envoyés spéciaux sur place, a recueilli des réactions à Kinshasa.
Kinyang à Laetitia Christine, coordinatrice de l'ONG Colissa. Nous avons déployé des observateurs électoraux suite aux difficultés que la Commission électorale nationale indépendante a rencontrées dans les déploiements des machines de vote et autres logistiques nécessaires au déroulement du vote, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on continue à voter. Les dépouillements, dans certains bureaux, ça a été fini. Les bureaux qui ont commencé effectivement à temps ou avec un léger retard et d'autres qui ont commencé en retard, les dépouillements s'est fait, bien que nous avons reçu déjà des rapports de certaines équipes à l'intérieur du pays qui ont dit qu'à certains endroits, il y a eu quelques irrégularités, quelques difficultés et voire des bavures. Mais nous ne pouvons pas en parler maintenant avant notre rapport provisoire ou final.
J'ai des yeux en maillot. Hein. J'ai voté au centre RVF. Il y a des bureaux qui ont commencé à 16h. Alors on nous a dit pour les opérations de vote doivent se dérouler pendant 11 heures du temps. Alors, ceux qui ont commencé hier vers 11 heures, ce sont eux qui ont eu à voter jusqu'à aujourd'hui, jeudi. Et cette façon de faire les choses n'est pas du tout correcte par rapport aux règles qui régissent les votes qui ont été publiés. Pour ce qui est de dépouillement, il y a quand même une certaine crédibilité qu'il faut allouer à ça parce que dans notre bureau, rien n'a été fait. Rien n'est fait à l'insu de tous ceux qui sont appelés à participer dans le bureau de vote. Donc les observateurs, les témoins et les agents de la CENIL sont tous là. Les dépouillements s'est fait en présence de tout le monde. Donc là, nous attendons parfois qu'il y aurait de bons résultats parce qu'on les fait quand même dans la présence de tout le monde.
Adèle Mayoyo Tombolo. Premièrement, on a commencé les élections en retard. Et par après, il y avait aussi la pluie et comme ça. Et on devait quand même permettre tout le monde à voter. Comme les autres n'ont pas voté hier, c'est ainsi qu'on les a donné l'occasion de voter aujourd'hui. Le dépouillement, ça s'est fait trop lent. Ils sont trop lents. Je ne sais pas à cause de la personnelle ou bien c'est quoi. Et ce que moi j'ai constaté comme témoin, de l'autre côté, il y a là où mon fils a mis une voix et le dépouillement, je ne retrouve pas cette voix-là. Mais les explications ne sont pas claires. On retrace, mon fils a voté dans une salle. Il a voté un numéro et quand on affiche les numéros, là n'apparaît pas. Il n'y a aucune voix entre temps. Il y a une personne qui a voté là-bas. C'est que moi, je n'ai pas compris.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, en RDC, à Lubumbashi, évidemment, sur le 102.8 FM.
Au Bénin, le président a délivré devant l'Assemblée nationale son discours sur l'état de la nation. Patrice Talon a souhaité la fin du bras de fer entre le Bénin et le Niger, né des sanctions prises par la CEDEAO après le coup d'État ayant renversé Mohamed Bazoum. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Feur-Adandé.
S'achemine-t-on vers la réouverture de la frontière, le rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger? Patrice Talon en a donné le ton dans son discours jeudi matin sur l'état de la nation. La situation crée d'importants manques à gagner aux deux pays et le président béninois reconnaît n'avoir jamais voulu compliquer la vie aux populations béninoises et nigériennes en se rangeant du côté de la CEDEAO. Patrice Talon.
Nous croyons à la coexistence pacifique des nations et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. Le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations, de leur rendre la vie encore plus difficile. C'est pourquoi il n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ces pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte.
David Kaba, journaliste consultant en décentralisation et développement local, se réjouit de ce clin d'œil fait aux autorités nigériennes et espère le retour rapide de la paix entre le Niger et le Bénin.
Les propos du chef de l'État viennent complètement baisser la tension. La lecture que j'en fais, c'est un bras tendu, de façon solennelle, de façon publique aux autorités du Niger. Pour moi, c'est quelqu'un qui opiniâtrement défend ses positions et que je n'attendais vraiment pas là. Ça a été pour moi une très belle surprise. Il faudrait aussi un effort de la part des autorités nigériennes pour qu'ils puissent parler de la même voix et aboutir à une bonne relance du développement du pays.
La fermeture de la frontière a durement impacté l'économie béninoise, mettant en mal le commerce transfrontalier ainsi que les activités au port autonome de Cotonou. Pour Gaëtan Avoyon, acteur politique et membre du Parti Renaissance Nationale, cette posture qu'affiche désormais Patrice Talon par rapport au Niger est la meilleure.
Personnellement, je voudrais que nous ne nous mêlons pas de ce qui va créer un clivage entre les peuples. Le chef de l'État aurait dû vraiment porter des gants. Je pense qu'il n'y a pas de suggestion que le chef de l'État doit faire au Niger, clarifier la politique de transition. Je pense que le chef de l'État devrait s'occuper du bien-être de la population.
Pour Yannick Maouillon, analyste programmeur de formation et très porté sur les questions en lien avec le panafricanisme, Patrice Talon fait enfin preuve de réalisme.
On ne peut pas soutenir un coup d'État, mais nous devons faire preuve de tact, d'intelligence, de réalisme.
Pour cela, Patrice Talon attend un geste des autorités nigériennes qui, selon lui, doivent jouer leur partition en rassurant, en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la communauté internationale. De côté nous, c'est notre fleur à donner pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Togo, la consommation de l'alcool, du cannabis et autres substances psychotropes par les jeunes élèves prend de l'ampleur dans le pays, malgré les stratégies mises en place par les autorités pour diminuer la consommation de drogues et de stupéfiants en milieu scolaire. Les résultats tardent à venir, les associations, les établissements scolaires et d'autres entités se mobilisent pour une sensibilisation plus accrue contre ce phénomène. De Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
Isidore Moncho Ayaovi est le coordinateur de l'ONG Croix Bleue, une structure de lutte contre la drogue au Togo. À son corps défendant, il constate que la consommation de différents types de drogues est en hausse chez les jeunes.
Ce que nous faisons aujourd'hui est un peu alarmant. En 2018, nous avons mené une étude en milieu scolaire et extrascolaire. Sur les 100% des enquêtés, il y avait au moins 58% qui consommaient déjà ces substances psychoactives. Nous voyons aujourd'hui qu'après plusieurs années de combat et surtout à la suite de Covid-19, il y a une recrudescence de la consommation de ces substances psychoactives en ces dernières années.
Et tout y passe. Alcool, cannabis, tramadol et ses produits dérivés. Au palais de la justice de sa localité, Pandiaoué et Sorou, substitut du procureur du tribunal de la ville d'Anero, voient défiler de plus en plus d'élèves.
Quand il vous arrive de recevoir un déferment et dans la vérification de l'identité du mis en cause, vous vous rendez compte que c'est un élève qui est impliqué dans la consommation ou dans la détention de ces substances psychotropes. Sincèrement, c'est le cœur meurtri que nous sommes parfois amenés à envoyer nos jeunes frères, élèves, en prison. Et sincèrement, ça nous interpelle.
Conscient de la situation, le gouvernement a mis en place des stratégies qui visent à prévenir les comportements addictifs chez les jeunes en milieu scolaire. Au lycée d'enseignement technique de Glidipoudi, le proviseur Dieudonné Amela organise des séances de sensibilisation et n'a pas hésité à solliciter l'appui d'autres structures.
Effectivement, le substitut du procureur est là pour parler des sanctions prévues par la loi en cas de transgression. Le psychologue est là pour parler comportement ou bien attitude négative de l'élève qui consomme la drogue et ses conséquences sur ses compétences.
Isidore Moncho Ayaovi estime que le gouvernement doit être ferme sur certains aspects de la lutte comme il a été pour la chicha.
Un simple décret a suffi pour que ces consommateurs de chicha qui s'installent au bord des voies disparaissent. Donc, de la même manière, s'il y a des décrets qui peuvent interdire la vente d'alcool en sachet et autres types de substances psychoactives, ça aiderait vraiment à réduire le phénomène.
Cet Ogloko aussi, éducateur, en appelle à la conscience des parents d'élèves.
Et dit la Romère.
Les enseignants et les autorités font ce qu'ils peuvent pour sensibiliser nos enfants. Mais il faut que les parents aussi s'investissent davantage en surveillant au mieux leurs enfants pour qu'ils ne touchent pas à la drogue. Leur avenir en dépend.
Voici Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
L'Angola annonce son retrait de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, justifiant cette action par les désaccords sur les quotas de production pétrolière. Cette décision annoncée par le ministre des Ressources naturelles est motivée par la volonté de se recentrer sur ses propres objectifs. Eric Manirakiza a joint à Conakry Ibrahima Aïdara, économiste et directeur exécutif adjoint du Bureau Afrique d'Open Society à Dakar.
Moi, c'est une décision de souveraineté. Je pense que les réductions qui ont été proposées ne lui conviennent pas. Comme annoncé par le ministre chargé des ressources naturelles, ils n'ont pas pris la décision à la légère. Donc je pense que pour moi, étant donné qu'ils ont certainement pris en compte un certain nombre de facteurs en termes de fourniture ou de débouchés de marché, on ne peut pas juger, disons, de la qualité de la décision maintenant. Il faut attendre pour apprécier. Mais je pense que s'ils ont tenu en compte ces facteurs-là, peut-être à court terme, ils peuvent, toutes choses étant égales par ailleurs, si les prix sont maintenus à ce niveau-là, peut-être qu'ils ont sécurisé les marchés et qu'ils peuvent, avec le niveau de production actuel qu'ils ont, ou s'ils augmentent un peu, ils peuvent gagner un peu plus. À long terme, avec la concurrence qui est de plus en plus dure, et aussi les facteurs de changement climatique et, disons, la morosité des investissements dans le fossile fuel, ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais il faut du temps pour apprécier les conséquences de cette décision-là sur l'économie pétrolière de l'Angola et son économie globale.
Et comment cette décision pourrait-elle influencer la dynamique au sein de l'OPEP et l'OPEP plus à l'avenir ? En particulier en ce qui concerne les discussions sur les quotas de production, le Nigeria, c'est un autre pays qui n'est pas content par les décisions de l'OPEP.
Oui, moi je pense que comme toutes les grandes organisations auxquelles les petites économies ou les petits pays participent, elles doivent être viables, doivent prendre en compte les préoccupations et les intérêts aussi de ces pays-là, particulièrement les pays africains. Ce n'est pas seulement que l'OPEP, mais les autres organisations. Donc, définissant ces quotas-là, on doit pouvoir prendre en compte les perspectives et les besoins de développement de ces pays-là pour ne pas seulement qu'ils soient des figurants dans ces organisations-là. Parce qu'on a toujours été, en tant qu'économie africaine, des price takers. Même si on participe à ce cartel, on nous a imposé des quotas en réalité. Les négociations restent toujours dures. Donc, je pense que l'OPEP, si elle doit survivre, doit prendre en compte donc cette dynamique-là. Autrement, je pense que en 2020, il y avait l'Équateur qui a quitté. Maintenant, c'est l'Angola. Et très prochainement, ça sera un autre pays, comme vous l'avez annoncé, le Nigeria, qui n'est pas content et qui peut aussi se retirer. Et donc, finalement, le cartel peut se disloquer, surtout face à une concurrence outrancière des États-Unis et face aussi, aux défis posés par le changement climatique et les investissements qui y sont associés.
Ibrahima Aïdara, économiste et directeur exécutif adjoint du Bureau Afrique d'Open Society à Dakar.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente